Décryptage, Marie Cazadebé.
En France, le débat est lancé, le grand débat national même, 2 mois durant lesquels les Français vont pouvoir s'exprimer sur la fiscalité, les services publics, la transition écologique et la démocratie. Des sujets qui sont soulevés depuis des semaines par le mouvement des Gilets jaunes. C'est par ce débat, entre autres, qu'Emmanuel Macron entend répondre à la colère.
Ces changements de fond, qui demandent une réflexion profonde et partagée, imposent un débat sans précédent. Il devra se dérouler au niveau national. Dans nos institutions, chacun y aura sa part. Vous y aurez votre part. Je veux en assurer moi-même la coordination, en recevoir les avis, prendre ainsi le pouls vivant de notre pays.
Mais ce n'est pas la première fois que les Français ont l'occasion de s'exprimer depuis le début du mouvement des Gilets jaunes en novembre. Il y a eu des cahiers de doléances mis à disposition dans certaines mairies et puis la consultation organisée en ligne en décembre par le Conseil économique, social et environnemental. Cette assemblée consultative composée de membres représentant la société française. Alors que nous apprend-elle des Français mais aussi de l'intérêt et des limites de la consultation des citoyens? Son président est notre invité. Bienvenue dans Décryptage. Bonsoir Patrick Bernasconi.
Bonsoir.
Merci d'être en studio avec nous. Vous dirigez donc le Conseil économique, social et environnemental, qui a pour rôle de conseiller le gouvernement et le Parlement sur l'élaboration des lois et des politiques publiques en France. J'espère que j'ai bien résumé. Alors comment est né le projet de consultation que vous avez mené au mois de décembre? Donc c'était 3 semaines grâce à une plateforme en ligne. Est-ce que vous avez répondu à une commande?
Non, pas du tout. En fait, au Conseil économique, social, environnemental, nous avons un comité de suivi des pétitions qui aujourd'hui circulent sur les réseaux. Et nous nous sommes aperçus début novembre, en fait, qu'une pétition était en train de monter très fortement. C'était la pétition sur la hausse, évidemment, des carburants. On a décidé tout bonnement de s'en saisir. Mais, je dirais, chemin faisant, on s'est aperçu, en fait, que derrière ce sujet de la hausse des taxes de carburant, ce n'était pas tant la hausse des taxes de carburant qu'en fait des sujets de pouvoir d'achat, des sujets d'inégalité sociale, de fracture territoriale qui étaient posés. Et donc, devant l'ampleur de ce mouvement, on a décidé, en fait, de se saisir de ces thématiques et de travailler. Et pour ce faire, en fait, on a choisi d'utiliser au démarrage une plateforme pour recevoir les idées des citoyens pour pouvoir aussi mieux connaître leurs revendications, leurs préoccupations, de façon à mieux les traduire dans notre avis qu'on devra rendre le 12 mars.
Alors, pour rappel, c'est évidemment l'annonce de la hausse de la taxe carbone et du prix des carburants qui avait déclenché les grandes manifestations. Mais ça veut dire finalement que vous aviez pu observer la naissance de ce mouvement des Gilets jaunes.
Oui, tout à fait. Grâce à notre plateforme, voilà, qui permet de surveiller toutes ces pétitions. On a pu voir émerger aussi d'autres sujets par le passé, et ainsi on a traité d'un certain nombre de pétitions. Il y a 1 an et demi, on a traité des déserts médicaux, par exemple. On avait vu cette problématique apparaître sur les réseaux. Puis on a traité de pétitions sur la fin de vie, un sujet difficile de société qu'on a traité. Dernièrement, on s'est saisi aussi de pétitions sur le bien-être animal, où il y a 4 à 5 millions de pétitionnaires qui circulent sur ces problématiques. C'est quand même très, 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 très important.
C'est-à-dire que vous alertez dans ces cas-là le gouvernement français sur les sujets qui deviennent sensibles.
On est en alerte et du coup, on se saisit des sujets, des problématiques et on les traite et on fait un rapport et avis. De la même façon, on était sur les problèmes des Gilets jaunes et on essaye aujourd'hui d'apporter une réponse cohérente avec cet outil particulier qui est le CESE.
Alors au début, il y a effectivement la hausse des prix de la taxe carbone, pardon, oui. Des prix du carburant. Et puis finalement, vous l'avez dit, on se rend compte que derrière la colère des Gilets jaunes, il y a plein d'autres thématiques. Vous en avez choisi 6 pour votre consultation. Lesquelles?
En fait, pour orienter un peu et recevoir peut-être des idées de façon un peu mieux ordonnancée, on a choisi 6 thématiques. En fait, quand on les regarde, en fait, ce sont à peu près les thématiques qu'on retrouve aujourd'hui dans le grand débat. Vous aviez les thématiques des inégalités sociales, des fractures territoriale, de la justice fiscale, du pouvoir d'achat, de la participation des citoyens et puis aussi de la transition écologique. toutes ces thématiques aujourd'hui, vous les retrouvez en fait dans le grand débat.
La grande différence, c'est que dans le grand débat national, quand on se rend sur le site sur lequel bientôt les Français vont pouvoir s'exprimer, il y a des QCM, donc questions à choix multiples, mais aussi des questions ouvertes. Et c'était pas du tout le cas de la consultation que vous avez organisée.
Non, parce que nous, on travaille en fait dans un cadre de travail qui consiste en fait à produire un rapport, un avis, qui va porter des propositions. Ces propositions seront d'ailleurs votées par notre assemblée. Mais pour pouvoir justement faire ces propositions, il était important d'abord de connaître un peu les sensibilités qui pouvaient être exprimées justement par nos concitoyens. D'où l'idée de la plateforme. On va faire aussi, pour compléter ce travail, tout un travail d'audition qu'on est en train de mener. Et puis, on a aussi décidé d'utiliser un autre outil. En fait, on a mis en place un groupe de citoyens tirés au sort. Et on a reçu ce groupe de 26 citoyens tirés au sort vendredi dernier. Vendredi, ils ont passé deux jours au CESE, vendredi et samedi.
Un panel de Français,
Une petite France, avec des critères classiques d'âge, parité,
vous aviez déjà organiser ça sur un autre sujet ou finalement là vous dites
c'est
que c'est une première.
Alors, c'est une
et
première
ça montre bien finalement l'importance
nous,
du mouvement.
C'est une première pour les institutions. Nous sommes d'ailleurs la seule institution à pouvoir incorporer au sein de nos commissions de travail des citoyens tirés au sort. On le fait, c'est une vraie première, c'est très intéressant. Et aujourd'hui, je dois dire que ça se passe particulièrement bien.
Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que le mouvement des Gilets jaunes est compliqué à comprendre, qu'il faut prendre le temps de savoir d'où ça vient et ce que ça représente?
Bien sûr, parce qu'en fait, vous voyez bien que lorsque vous interrogez ces personnes que vous retrouvez par exemple sur les ronds-points, ils expriment des opinions personnel, du vécu personnel, de toutes ces expressions très individuelles, il faut en faire des paroles collectives. Et de ces paroles collectives, à un moment donné, il va falloir dégager l'intérêt général. C'est quand même la spécialité de cet outil qu'est le CESE, c'est de pouvoir traduire ces paroles individuelles en paroles collectives et puis derrière d'avoir un avis, des propositions qui puissent être votées. Et évidemment, il faut en arriver à cela si on veut sortir de cette diversité de propositions qu'on a aujourd'hui devant nous.
Et ça répond finalement à une situation plutôt inédite en France, un mouvement qui n'a pas vraiment de leader, qui n'a pas vraiment d'organisation. C'est pour ça qu'elle demande un outil de lecture très particulier.
Il faut des outils qui permettent justement de traduire ces préoccupations en propositions concrètes. Et une institution comme la nôtre est un moyen pour y parvenir. De par sa composition, d'ailleurs, lorsque vous regardez la composition du CESE, vous retrouvez au CESE les 80 plus grandes organisations de ce pays. Vous avez à l'intérieur le mouvement associatif, par exemple, vous avez les familles, vous avez les jeunes, vous avez évidemment les organisations syndicales, les organisations patronales. C'est une très 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 grande diversité d'organisations et d'associations, plus de 80 organisations et associations. Et à l'intérieur, vous avez des personnalités très riches, puisqu'en fait, nos conseillers, ils ont trois jobs, en fait. Ils sont conseillers, ils sont en général en mandat, ils sont en général évidemment très impliqués dans leur association. Et puis derrière, ils ont souvent un job. Et vous avez donc des ouvriers, des bouchers, des agriculteurs, des éducateurs.
On va juste rappeler, puisque vous allez souvent prononcer ce nom, CESE, donc pour Conseil économique, social et environnemental. Alors la question de la fiscalité et celle des services publics sont intimement liées. Vous les avez abordées évidemment dans la consultation. Ce sont des thèmes donc aussi du grand débat national. Pauline Glaize a interrogé des habitants de Bourges dans le centre de la France, ville choisie par des Gilets jaunes pour leur dernière journée de manifestation. C'était samedi dernier.
C'est que le bus soit gratuit et qu'il y ait plus de bus. Il n'a pas à se regarder toutes les demi-heures. Ça va pas, ça. Si on avait plus, ils seraient payants, moi je serais d'accord. Mais il n'y a pas de masses, ils sont payants.
Je n'ai cessé de voir régresser les transports entre Paris et Bourges. Il faut se lever très tôt ou partir très très tard pour avoir des trains directs. Bon, après ça, il faut des sous. Où on les prend? Je n'ai pas de réponse économique, je ne suis pas compétente pour en donner.
Nos EHPAD meurent, nos hôpitaux meurent pour nos résidents. Il faut vraiment qu'ils fassent quelque chose. Je sais les problèmes qu'il y a. Après, les idées, je pense qu'on a quand même un gouvernement qui est aussi là, quoi.
Patrick Bernasconi, que ressort-il de la consultation donc du Conseil économique, social et environnemental sur le thème de la fiscalité et de l'utilisation de l'impôt?
Il y avait un vrai sujet qui était posé, évidemment, c'est l'acceptation de l'impôt. À quoi sert l'argent public? On voyait bien qu'il y avait une espèce de refus à payer l'impôt, et ce problème était bien posé. On l'a retrouvé d'ailleurs dans... Alors, sous différentes formes, on l'a retrouvé aussi, évidemment, comme contribution sur notre plateforme. On avait, par exemple, une demande de retour à l'universalité des allocations familiales. Il y avait beaucoup de sujets autour des allocations familiales. On avait aussi un sujet, évidemment, autour du rétablissement de l'ISF. On a trouvé pas mal de propositions
là-dessus. C'est un sujet qui revient souvent, qui vraiment s'imposait, en fait, comme
sur les ronds-points, oui, ça a été souvent exprimé, on le sait, et on l'a vu aussi apparaître, évidemment, sur notre plateforme. On a aussi faire payer les GAFA, évidemment, c'est un sujet qu'on voit aussi réapparaître. Donc, toutes ces problématiques devront être regardées et digérées par la commission de travail.
Quel sentiment, selon vous, domine, justement, dans les propositions, les réflexions qui ont été faites sur cet impôt? Est-ce que c'est, selon vous, un sentiment d'injustice, de mauvaise répartition? Est-ce que vous avez déjà repéré une tendance?
Un sentiment d'avoir un impôt sûrement qui soit juste, qui soit évidemment utile. À quoi sert l'impôt? Donc un vrai besoin de visibilité par rapport à ce que les gens payent. Et ce sont vraiment des choses qui sont ressorties assez fortement. Donc il faut travailler donc à ces meilleures visibilités, à cette meilleure compréhension de l'utilisation de l'argent public. C'est vrai qu'il y a une vraie demande.
Alors beaucoup de questions posées dans le débat national sont très ouvertes. Hein. Il ne s'agit pas forcément de répondre par oui, par non. Je vous donne un exemple. Comment pourrait-on rendre notre fiscalité plus juste et plus efficace? On entendait tout à l'heure des Français renvoyer les questions techniques à nos dirigeants en disant « moi j'ai pas la solution, j'espère que le gouvernement l'a ». Est-ce que ces questions finalement ne sont pas trop ouvertes? On n'est pas tous des spécialistes de la fiscalité?
Alors sur les questions ouvertes, je pense que ce qui est important c'est de recueillir ce qui fait sens pour les gens, quels sont leurs sujets de préoccupation. Il peut y avoir aussi des idées de propositions. C'est vrai que les questions ouvertes ne sont pas toujours très évidentes et apporter une réponse construite, cohérente par rapport à l'ensemble des problématiques posées, c'est pas toujours évident. Surtout que souvent on n'est pas spécialiste du sujet.
Bien sûr.
Alors évidemment, en plus, on a l'idée d'aller poser des questions par oui ou par non sur ce type de sujet, c'est strictement impossible. On voit bien qu'on peut arriver à des choses très 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 compliquées pour le coup.
La transition écologique, est-ce que vous avez le sentiment que c'est un sujet qui importe beaucoup? En tout cas, les personnes qui se sont prononcées sur votre plateforme, ils étaient 30 000 à peu près, puisque finalement c'était aussi un peu la base du mouvement des Gilets jaunes. Vous l'avez dit, l'augmentation de la taxe carbone. Est-ce que c'est un sujet qui a porté intérêt, en tout cas sur cette plateforme?
Derrière la transition écologique, il y a surtout comment on peut faire en sorte que tout le monde puisse contribuer à la hauteur de ce qu'il peut faire dans cette contribution écologique. Et donc il y a évidemment l'idée de comment on peut mutualiser, comment on peut mieux accompagner ceux qui sont en difficulté. Et il y avait beaucoup d'interrogations par rapport, évidemment, à ce sujet. Et donc, ça posait vraiment, pour le coup, le sujet de l'acceptabilité de l'impôt, même pour un sujet aussi important que celui de l'écologie. C'est qui doit payer? Comment on peut payer? C'est-à-dire, bien sûr que tout le monde est d'accord pour répondre à ces enjeux de transition écologique, mais quelles sont les politiques public qu'on peut mettre en place concrètement pour pouvoir justement accompagner cette transition écologique? Quelle mesure d'accompagnement on doit mettre en place pour pouvoir bien la développer? Donc il faut faire des propositions et là c'est très important de pouvoir y travailler de façon à ce qu'on justement on puisse bien répondre à ces enjeux. Qu'elles puissent être acceptées. Donc après ça pose aussi la question s'il y a des taxes autour du carburant, etc. Est-ce que ça sert bien à la transition écologique? Quelle est la visibilité qu'on a de la bonne utilisation de l'impôt, justement pour cette transition écologique? Donc il faut apporter des réponses, je pense, dans ce domaine concret, si on veut justement que cette transition et les mesures qui doivent l'accompagner puissent être acceptées.
Alors les Français vont être aussi interrogés sur la démocratie et la citoyenneté. Retour à Bourges, où le RIC, le référendum d'initiative citoyenne, est revenu souvent au micro de notre envoyé spécial, Pauline Glaise.
Le RIC, on ne prend pas assez en compte l'avis des citoyens.
Les gros lobbies ne vont pas tous nous rincer là, en fait. Ils peuvent rincer les députés. Donc le RIC, c'est vraiment une chose importante. Et vraiment, où on nous propose des lois Ouais, toutes les semaines. Et alors, personne ne peut contredire l'envie d'instaurer un RIC.
Parce qu'il y aura tout et n'importe quoi. Et puis après, on l'a vu avec le Brexit, hein, on dit oui, puis après on se dit, oh zut, j'aurais dû dire non. Une vraie proportionnelle. Là, on aurait une représentation beaucoup plus saine et beaucoup plus diversifiée des citoyens, quoi. Que là, la majorité absolue comme ça...
Patrick Bernasconi, le RIC, c'est vrai que c'est une des revendications qui se dessine le plus clairement dans le mouvement des Gilets jaunes, pourtant très hétérogène. Hein. L'objectif, donc, c'est de permettre aux citoyens de convoquer un référendum. Comment vous interprétez cette requête qui revient si souvent?
Moi, je l'interprète vraiment comme une envie de participer au débat public et de pouvoir y contribuer. Alors, là, pour le coup, le grand débat peut permettre évidemment une très large contribution des uns et des autres. Après, évidemment, il se posera la question de la sortie, comment tout ce qui a pu être dit est repris et comment ça se traduit concrètement. Après, sur le référendum d'initiative citoyenne, moi, c'est vrai que je suis assez prudent et je l'ai dit. Parfois, c'est aussi l'antichambre des extrêmes, c'est-à-dire sous le coup de l'émotion, on peut très bien demain faire revenir sur la peine de mort et revenir sur un certain nombre d'acquis extrêmement importants pour notre démocratie. Parce qu'on va piloter à ce moment-là les choses sous le coup de l'émotion. Et sous le coup de l'émotion, on peut arriver à des résultats très très surprenants. Donc moi, je suis évidemment très prudent par rapport à cela. On a des outils de démocratie. Il faut qu'ils fonctionnent, sinon il n'y a pas de démocratie possible sans avoir des chambres représentatives qui fonctionnent, sans avoir une chambre qui représente la société civile organisée qui fonctionne.
Parce que
à ce moment-là,
oui.
on se met en danger. On ne peut pas piloter le citoyen en direct.
Parce
en général,
RIC,
c'est l'antichambre. Moi, j'ai souvent dit, c'est l'antichambre des dictatures.
Le RIC, parce que finalement, en fait, c'est passer par-dessus les corps intermédiaires que finalement
oui, mais plus
vous
que ça, c'est
aussi.
Passer par-dessus aussi les assemblées. C'est passer par-dessus tous les outils qui existent et qui doivent permettre à cette démocratie de pouvoir fonctionner. Sans outils, la démocratie ne peut pas fonctionner.
Alors vous dites le débat national, la consultation que vous avez menée peut-être justement un de ces outils, elle a quand même montré évidemment ses limites avec l'influence de groupes idéologiques qui ont profité donc par exemple de la consultation pour remettre en cause le mariage pour tous, la loi de bioéthique. Est-ce que le poids des lobbies risque de peser de la même manière sur le grand débat?
Il faut juste savoir, lorsque vous ouvrez une plateforme au grand public, évidemment, les lobbies, c'est comme ça qu'on les appelle, les groupes de pression, surtout s'ils sont bien organisés, peuvent évidemment contribuer à porter des revendications. Il faut juste le savoir. Et on est tout à fait capable, si on fait un travail précis, de reconnaître qu'est-ce qui relève du lobby et qu'est-ce qui relève d'une initiative plus individuelle.
Parce que ce qui est intéressant, sur votre concertation, Monsieur Bernasconi, est-ce que vous, il y a beaucoup de sujets, hein,
oui,
vous l'avez senti, qui sont sortis effectivement de groupes d'influence, lesquels, par exemple, on a parlé du mariage pour tous, c'était surtout.
Oui, il y a eu aussi des lobbies assez anti-écologiques qui ont œuvré. Bon, on le sait.
Et on est capable d'analyser les résultats.
Tout à fait. On y a un travail de fond qui est réalisé avec notre prestataire et d'ici quelques jours, on sera en mesure d'avoir une analyse très précise, évidemment, des réponses que l'on a. Pour moi, la plateforme, elle est très intéressante par rapport aux idées qui sont portées et surtout, évidemment, par rapport à des citoyens qui n'ont pas l'habitude d'être justement dans des organisations. Ça doit être un outil pour eux, c'est-à-dire leur permettre, à un moment donné, d'avoir une expression quelque part. Les groupes de pression, on les connaît, on sait ce qu'ils représentent, on sait en général le nombre d'adhérents qu'ils ont derrière. Donc ça, de ce point de vue-là, voilà, on le sait, on le connaît.
Et pour l'analyse maintenant des résultats du grand débat national qui va durer 2 mois, donc avec énormément d'informations, c'est énormément plus évidemment que la consultation que vous avez faite en 3 semaines. Vous pensez qu'on a les outils justement pour étudier le vrai ressenti, ce qui ressort vraiment de la tête des Français en tout cas qui vont y participer, en pouvant justement faire un peu le ménage par rapport à tous ces groupes de pression qui vont aussi en profiter pour s'exprimer?
Alors, plus la participation sera importante et large, et moins on aura ce risque. Cette consultation va s'échelonner sur un certain nombre de semaines, je pense qu'on aura une très large consultation. Après, il faut aussi, évidemment, que tous ces débats se passent sereinement partout, sur les territoires. Je vois que les maires sont beaucoup à l'initiative, pour permettre de les organiser, soit de façon active, active, soit de façon plus passive peut-être, mais voilà, je pense aujourd'hui, il y a un vrai intérêt, puisque si j'en crois les sondages, on dit qu'un Français sur deux souhaite participer, apporter une contribution.
En conclusion, Monsieur Bernasconi, juste en deux mots, est-ce que vous pensez que le grand débat national va répondre justement à ce besoin de s'exprimer, qui a pu aussi s'exprimer dans votre consultation?
Ben, il le faut absolument entendre la parole de tous nos concitoyens. Après, il faudra traduire tout cela en parole collective, en intérêt général, et puis prendre à ce moment-là les bonnes décisions. Donc tout ça est aussi un problème de méthode.
Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Patrick Bernasconi, donc président du Conseil économique, social et environnemental. Merci à toute l'équipe de Décryptage. Fabrice Viollet était à la réalisation.